Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Kylian Verhove.
Salut à tous, on l'avait presque oublié, le champion du monde est bel et bien de retour. Il aura fallu attendre 11 Grands Prix, 11 week-ends à douter, à subir, à regarder les autres lever les bras. Mais sur la fournaise du Hungaroring, Lando Norris a rappelé pourquoi il porte le numéro 1. Une pole, un rythme infernal, une victoire qui ressemble à un message et peut-être à un tournant. Parce qu'en Hongrie, tout a basculé, McLaren a retrouvé son éclat. Max Verstappen a limité les dégâts, Kimi Antonelli a encore marqué de gros points pour le championnat. Ferrari, elle, s'est une nouvelle fois perdue dans ses choix. Et derrière les écarts, derrière les chronos, une question s'impose. Assiste-t-on enfin au réveil de Lando Norris ou simplement à un feu d'artifice avant la trêve estivale? Cette victoire peut-elle relancer la saison ou arrive-t-elle trop tard? Le roi est-il tout simplement de retour? Bienvenue dans votre débrief du Grand Prix de Hongrie. Et pour débriefer cette dernière course avant la trêve estivale, avec moi notre team principal Jean-Luc Roy from Miami et notre ingénieur qui enchaîne une nouvelle fois une titularisation avec nous, Thomas Bordenave-Lago. Salut Thomas, salut Jean-Luc.
Salut tout le monde, salut Jean-Luc.
Eh ben salut Kylian, salut Thomas et bonjour à tous.
On a eu un bon Grand Prix quand même mon Jean-Luc, c'était assez excitant.
Ah, complètement. Écoute, ça fait très plaisir. D'abord, quand il y a un petit peu de changement, effectivement, la domination à un moment quand même très écrasante de Mercedes devenait presque obsessionnelle. En tout cas, au niveau des pôles, là, il n'y avait pas photo. 6 pour l'un, 4 pour l'autre. Bon, bah voilà, on a changé. Au niveau des victoires, bah, il y avait quand même eu du renouveau avec, évidemment, notamment la fantastique victoire d'Hamilton à Barcelone. Mais on attendait plus. Alors, juste un tout petit, c'est pas un bémol, mais Norris, on l'avait aperçu. Tu te rappelles quand même sur des podiums du côté de Miami et du côté de l'Espagne, si je me rappelle bien. Mais bon, c'est vrai qu'il était à distance plus que respectable et puis c'était presque, pas, je ne vais pas dire par hasard, mais bon, c'est vrai qu'il a mangé son, on peut dire son, je ne sais pas comment on dit, avec chez les papayas, le pain noir, orange. Ça existe là-bas aussi. Orange, le pain orange, voilà.
Avant de, évidemment, développer sur cette victoire de Lando Norris, messieurs, un point sur les classements après ce Grand Prix de Hongrie, victoire donc du champion du monde en titre, suivi sur le podium de Max Verstappen et Kimi Antonelli, qui accroît son avance au classement des pilotes. Viennent ensuite les deux Ferrari, Charles Leclerc 4e, Lewis Hamilton 5e, notre Français Isaac Hadjar qui enchaîne un 7e, top 6 de suite. Derrière, on retrouve George Russell, qui a eu du mal au départ, on va en parler évidemment. Et puis la bataille du midfield a été remportée cette fois par Racing Bulls et Audi. Liam Lawson 8e, Nico Hülkenberg 9e, Arvid Lindblad 10e, Bortoleta 11e. Et puis hors des points, on retrouve Pierre Gasly 12e, Esteban Ocon 16e, Oscar Piastri évidemment qui a dû abandonner. Et puis un dernier mot sur les Aston Martin qui bouclent leur meilleur week-end depuis le début de la saison. 13e et 14e, Lance Stroll et Fernando Alonso. Au classement des pilotes, Kimi Antonelli a donc 50 points d'avance sur son dauphin à la trêve, Lewis Hamilton, 219 points pour le jeune Italien. 3e, George Russell. 4e, Charles Leclerc. 5e, Lando Norris. 6e, Max Verstappen. Et puis au championnat constructeur, Mercedes a 379 points, juste devant Ferrari, 307 points. Et puis McLaren a fait un petit bond, 220 points au classement constructeur. Messieurs, victoire donc de Lando Norris, quelques stats à l'appel comme ça. 12e victoire en carrière, sa première depuis le Brésil l'an dernier, sa première en tant que champion du monde également. Et puis sa 2e victoire de suite sur ce Hungaroring. Déjà, avant même de parler de sa course, le voir remporter un Grand Prix avec ce fameux numéro 1, on est d'accord que ça en jette, mais aussi que ça n'est pas rien et que c'est un message qui est envoyé, sachant qu'on avait l'impression que c'était comme une anomalie qui désormais a été réparé, Jean-Luc.
Bien sûr. Alors, on a invoqué plusieurs raisons pour cette relative méforme de McLaren. Bon, ils étaient quand même dans la bande des quatre, même s'ils fermaient un peu la marche. Enfin, j'allais dire alternativement, parce que Red Bull a eu des hauts et pas mal de bas aussi. Mais bon, ils étaient quand même dans le coup. La faute à probablement cette bataille intense jusqu'au terme de la saison dernière pour décrocher le titre. Et puis la faute aussi au développement, qui avait sûrement été un petit peu en retrait. La faute à ce nouveau règlement que certains ont amélioré, appréhendé plus exactement, mieux que d'autres. Mais bon, écoute, oui, ça fait fait plaisir. Bah, d'abord, on les revoit, brillants. Puis, ils étaient très surpris, hein, tous les deux. Et là aussi, ça n'est pas fin. Norris, qui est un garçon qui est frais. C'est vrai qu'on avait presque oublié à quel point il est frais, spontané, presque innocent. Mais ce n'est pas du tout une critique. Hein. Presque trop gentil dans ce monde de brutes, encore une fois. Mais on l'a retrouvé avec sa fraîcheur. Et après avoir décroché la pole, bon, pas pour beaucoup, mais il était devant. Et puis là, il s'est glissé entre les drapeaux jaunes en fin de séance. C'était superbe. Après, il n'avait pas trop d'illusions non plus en course en se disant « Oula, les Ferrari devraient normalement nous écraser. » Eh ben non, il l'a fait très bien aussi. Puis il l'a fait avec la manière, je dirais. On va revenir dans le détail probablement. Bien mais sûr. Non, écoute, ça fait plaisir. C'est rafraîchissant.
Thomas, on est d'accord que ça va le soulager, peut-être même le libérer, cette victoire.
Oui, bon, déjà, il faut dire l'honneur est sauf.
Oui.
Il a gagné sa première course.
Oui,
avec
ça doit
le
soulager McLaren aussi.
Puis McLaren aussi, parce que quand on passe de champion du monde des constructeurs l'année précédente à jouer la quatrième place cette année, voilà, on pourra dire qu'on a engrangé au moins une victoire, qui peuvent en amener d'autres. Ça montre aussi que toutes les améliorations qu'on a amenées, tout le package qu'on a amené ce week-end, ça fonctionne. En tout cas pour la voiture de Norris, parce qu'on parlera malheureusement de l'autre côté du garage. Oscar Piastri, ça s'est pas passé comme Lando Norris, mais oui, l'honneur est sauf. Il a dominé quasiment toutes les séances d'essais libres. La qualification, tu viens de le dire également, Jean-Luc. Donc oui, week-end parfait pour Lando Norris. Et ça lui enlève une sacrée pression quand même, parce qu'il était attendu. Il était un petit peu placé au second rôle, même au troisième rôle, avec la domination des Mercedes et puis surtout la marche en avant de Ferrari, qui s'est un petit peu stoppé ce week-end. Mais là, oui, ça doit lui faire du bien. En tout cas, il part d'une manière un peu plus sereine en vacances et il reviendra avec le moral chargé à bloc à Zandvoort.
Jean-Luc, est-ce que tu dirais presque que c'est une des victoires les plus importantes de sa carrière ? C'est un peu provocateur, dit comme ça, je te l'accorde, parce que, évidemment, il a été champion du monde l'an passé. Il en a eu des victoires énormément l'an passé. Mais quand on connaît le contexte, quand on connaît les difficultés autour de ce début de saison et de McLaren, est-ce qu'on ne peut pas se dire que potentiellement, c'est une des victoires les plus importantes pour lui ?
Absolument, mon Kylian, je souscris tout à fait à ça. Il a dit d'ailleurs pendant le week-end, je ne sais plus si c'est après les qualifs ou après l'arrivée, mais bon, qu'il pensait qu'il avait évolué en tant que pilote et qu'il n'avait jamais aussi bien piloté qu'en ce début de saison. Alors évidemment, ça ne se voyait pas toujours bien et pas trop, mais avec le matériel dont il dispose. Tu sais, aujourd'hui, c'est tellement difficile, on le voit bien avec nos pronostics, c'est pas un gag, hein, parce que quand tu demandes d'ailleurs aux pilotes eux-mêmes de déclarer, alors ça, là, c'est vraiment maintenant une constante, hein. Tu leur demandes le jeudi et même le vendredi ce qui va se passer pour la suite du week-end, ils ne savent pas. Et je pense que c'est exact. Encore une fois, les écarts sont tellement limités. Et puis, ils ne savent pas comment ils vont réussir à faire évoluer la monoplace. Donc, comment nous demander à nous, observateurs, même, on dit toujours privilégiés, mais non, tout le monde a le droit d'avoir son opinion et tout le monde a les mêmes renseignements pratiquement que les nôtres. Donc, c'est vrai que je pense qu'il a mûri. Son titre lui a évidemment fait du bien. Bah, tu sais, ça soulage. Hein, quand tu rêves toute ta vie, toute ta carrière, depuis tout petit, depuis 5, 6, 7 ans, depuis que tu regardes les Grands Prix à la télé, depuis que tu fais du karting, depuis que tu limes les pistes en te battant pour toutes les places avec des machines plus ou moins performantes. Et lui, il a ramé avec McLaren hein, quand même depuis 2019. Bah, c'est un aboutissement. Il l'a dit aussi. Il a dit, ça y est, j'ai atteint mon Graal. Alors peut-être qu'il y aura un autre titre et on lui souhaite, ou deux autres, ou cinq autres. Mais peu importe. En tout cas, il a atteint son Graal. Et le Graal, tu sais très bien que ça ne s'atteint qu'une fois. C'est-à-dire qu'une fois que tu as effectivement décroché la timbale... Bah, c'est fait, après tu peux récidiver, mais c'est pas pareil. Donc je pense que ça l'a soulagé, je pense qu'il est serein intellectuellement, il est sûr de son talent, même si bon, on va parler après d'autres qui ne sont pas bien champions sûr. Du monde ou qui ne vont peut-être jamais le devenir. Mais je veux dire, oui, ça lui fait extrêmement du bien et ça en fait, alors candidat au titre, il part quand même de très très loin, hein, parce qu'il faudrait vraiment que ça s'effondre devant et comme on dit, il faudrait qu'Antonelli, pour l'appeler par son nom, rate le titre lui-même. Mais en tout cas, ça va être intéressant. La deuxième partie de saison, ça va être intéressant. Parce que... Et puis, on n'a pas fini. Il y a le retour d'Aston. On va en parler.
Évidemment. Bon, on ne va peut-être pas aller jusqu'au titre pour Aston, mais je te concède ça, Jean-Luc. Rentrons un petit peu dans les détails de sa course avant de se projeter sur la suite de la saison de McLaren. Ou plutôt, écoutons-le parler de sa course juste après l'arrivée. Et on en parle juste après. J'ai été un peu trop agressif au freinage au départ, j'en ai payé le prix, Oscar m'a doublé, mais après c'était clair que nous étions les plus rapides, j'étais persuadé que je pouvais gagner. Bien sûr, Oscar a été malchanceux, il a abandonné, mais je pense que nous aurions quand même gagné, car mon rythme était un des meilleurs que je n'ai jamais eu. Je le poussais beaucoup dans le premier et le deuxième relais, je pense que j'aurais pu le doubler dans le dernier relais, en tout cas, c'est une superbe journée pour nous.
I think I would have been able to come through and get him in the final stint. So, a good day for us.
Thomas, malgré un départ un peu raté, on est d'accord qu'il a affiché un rythme absolument exceptionnel, Lando Norris, ce week-end.
Oui, on l'a vu déjà dès les 10 premiers tours. Après les 10 premiers tours, il commençait déjà à klaxonner derrière les rétros d'Oscar Piastri en disant qu'il était plus rapide. Ce qui va remettre un petit peu en perspective ces fameuses... Je sais que Jean-Luc, tu n'es pas trop fan de ce terme-là, mais les papaya rules.
C'est juste la terminologie qui me fait rigoler. Mais bon, c'est folklorique, on va dire. Voilà.
Mais c'est vrai que oui, depuis, à part le départ, où et ça c'est bien, je trouve qu'il admet voilà, qu'il a fait la faute. Ça n'a pas été trop pénalisant, puisqu'il n'a pas perdu... Il a perdu qu'une place, mais c'est vrai qu'au niveau du rythme, il y avait quasiment rien à dire. Lando Norris était plus rapide qu'Oscar Piastri, donc au jeu des arrêts au stand, il a pu repasser et puis ensuite il a pu dérouler le rythme parfait qu'il avait depuis le début de la course. Donc sur ça, il y a marche parfaite. Franchement, rien d'autre à rajouter, si ce n'est que le plan s'est déroulé, entre guillemets, sans à-coup pour lui.
Jean-Luc, qu'est-ce que tu retiens le plus de la course de Lando Norris, ou peut-être même du week-end de Lando Norris, parce qu'il est devenu quand même le tout premier pilote non Mercedes à décrocher une pole depuis le début de la saison, c'est pas rien. Et au-delà de ça, dans la course, il y a eu à la fois le rythme, on en a parlé, mais il y a eu aussi son mental. Qu'est-ce que tu retiens, Jean-Luc ?
Alors pour rigoler également, parce qu'on est quand même là pour ça aussi, ça y est, donc je confirme que Mercedes a bien donné le mode d'emploi du moteur à McLaren.
Ah oui.
Là c'est bon.
Là ils l'ont.
Ouais.
Et malheureusement ils sont devant du coup.
Eh ben ouais, voilà. Et ce sont des choses qui arrivent. Donc bon, c'est un package qui lui permet de briller. C'est le retour du gentil garçon. Encore une fois, c'est pas péjoratif du tout, mais c'est le cas. Et puis il affiche cette image, il la revendique même en disant moi j'ai gagné avec mes valeurs sans faire de coups tordus. Et c'est vrai. Là, en début de course, Thomas le rappelait. Bah bien sûr, on a vu que ok, il s'est un poil raté, mais ça arrive, c'est rien du tout. Il a été un peu loin au virage numéro 1. Bah évidemment. Piastri, très opportuniste, en a profité. On sait qu'il se retrouvait du bon côté de la piste, hein, et ça, je l'avais signalé tout de suite, parce que à quelque chose, malheur était bon. Évidemment, il n'avait pas été à ce niveau-là, mais tous ceux qui étaient du bon côté de la piste, ça les a aidés. Hamilton aussi, après un très bon départ. Bon, ça veut dire que Lando, avec une machine qui fonctionne, et puis il a bénéficié de ce fameux fond plat, je crois que c'est surtout ça, que Piastri n'a eu que samedi matin pour la FP3. En plus, Piastri, on va aborder son cas dans un instant, je présume, mais n'a pas roulé lui en FP1, vous le savez, il a un peu de mal à démarrer aussi son week-end. Donc Norris a été mieux servi parce que c'était son tour et il l'a exploité magnifiquement. Donc Paul, victoire, c'est génial. Alors c'est pas lui qui a le tour le plus rapide, mais il en avait pas besoin. Et puis on a dû le calmer en fin de course, et ça c'est toujours bon pour un pilote quand on lui dit bon attends, c'est bon, c'est pour toi, ménage les pneus, ne monte pas sur les vibreurs, fais gaffe, surtout que la boîte avait cassé sur celle de Piastri. Donc voilà, c'est un retour sous la lumière, sous les projecteurs. Qui peut évidemment en attendre d'autres dans la deuxième partie. Hein. Donc, j'en fais pas un candidat au titre, mais décrocher encore une ou deux victoires, si la McLaren reste au niveau, il n'y a pas de problème.
Justement, Thomas, est-ce que c'est un one-shot ou est-ce qu'on peut s'attendre après cette trêve estivale à ce qu'il y ait une continuité à cette performance de Lando Norris et plus globalement de McLaren ?
Je rejoins l'invite Jean-Luc, je pense que c'est un poil trop tard pour, en tout cas, le voir candidater pour le titre. Mais en tout cas, oui... Si la voiture, si les évolutions là qui ont été apportées en Hongrie ont bien fonctionné, si les autres améliorations s'emboîtent parfaitement, oui, on peut potentiellement voir encore McLaren postuler entre guillemets à d'autres podiums, à d'autres victoires, à d'autres pôles. Voilà, exactement. Par contre, pour en faire un candidat pour le titre, malheureusement, le réveil est trop tard. C'est vrai qu'il a fallu quand même attendre le Grand Prix de Belgique pour que Mercedes, entre guillemets, dote de McLaren du fameux outil de simulation pour la gestion d'énergie, ce qui a été, je pense, l'un des facteurs de cette victoire.
Oui.
Donc, trop short pour moi pour être candidat au titre, mais par contre, pour recoller un petit peu, pourquoi pas titiller Red Bull, mais de manière un peu plus fréquente sur les prochains Grands Prix, pour moi, oui, il n'y a aucun doute.
Mais est-ce qu'au-delà de ce qu'on peut attendre de McLaren, ce retour en force de McLaren, est-ce que ça ne change pas aussi la dominance psychologique qu'il peut y avoir dans toute la grille? Est-ce que ce n'est pas forcément McLaren qui va aller chercher le titre, mais est-ce que ça ne peut pas bouleverser aussi les attentes des uns et des autres, des premières écuries qui jouent le titre?
Ah bah là, clairement, je pense que hier soir, dans le paddock, on s'est dit « Ah, il y a une nouvelle écurie qui va pouvoir tirer son épingle du jeu », parce qu'on a souvent entendu le duel un petit peu Mercedes-Ferrari. Red Bull n'est pas très loin. Il faut rappeler quand même la magnifique deuxième place de Max Verstappen ce week-end. On va en reparler. Mmh. Mais là, maintenant, on a McLaren qui se rajoute à la bagarre, à la partie. Donc oui, ça rabat un petit peu les cartes. Alors, peut-être pas de manière récurrente, ils vont gagner, mais en tout cas, ça va faire un candidat sérieux pour un petit peu, je vais rester poli, casser les pieds de Mercedes et Ferrari dans la bataille constructeur, puisque maintenant, il y a un nouveau joueur dans la partie.
Juste avant de parler d'Oscar Piastri, Jean-Luc, est-ce que McLaren n'est pas tout simplement l'écurie, ou du moins la meilleure écurie en termes de développement, quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire l'année dernière, quand on voit... malgré le mauvais début de saison, ce qu'ils arrivent à tirer de leur voiture encore une fois à la mi-saison, est-ce qu'on peut dire que McLaren est vraiment ce qui se fait de meilleur en termes de développement de monoplace?
Écoute, là, la progression est très spectaculaire, hein, effectivement. Ils étaient un petit peu en retrait. Ils reviennent sous le feu des projecteurs. Oui, ils sont dans les meilleurs. Je te dis, la bande des quatre, hein, j'aime bien cette expression qui s'appliquait, vous étiez trop jeune, mais qui s'appliquait aux dirigeants chinois à une certaine époque. On parlait toujours de la bande des quatre. Et c'était les plus forts. Ben là, c'est le cas. Ce sont les plus forts. Et effectivement, ils ont repris leur rang. Alors, ça les perturbe, oui, à plusieurs niveaux. Je parle des autres. Hein, parle notamment, évidemment, de Mercedes et de Ferrari, parce que ça veut dire qu'on est capable de venir prendre des très gros points. Et ça, c'est plus embêtant, évidemment, pour ceux qui se disaient « Ah bah, bon, ça va, on est entre soi ». Et surtout que, vous l'avez vu comme moi, hein, si on prend les points constructeur attribué à l'issue de ce Grand Prix de Hongrie, ben je remonte volontairement. Hein. On en prend 26 du côté de Red Bull, on en prend 25 du côté de McLaren, on en prend 22 du côté de la Scuderia et 21 du côté de Mercedes. C'est rigolo, hein, parce que c'est exactement, ça veut dire qu'on est en train de combler l'écart. Bon, alors attends, il n'y a pas de frayeur à avoir pour Mercedes. Sûr, hein, puisque, pour autant, bah oui, il y a 72 points d'avance
sur ce Grand Prix, quoi.
Voilà, bah écoute, c'est exactement ça. Ça veut dire que bah, il va falloir effectivement, et puis ils le disent, hein, se réveiller, notamment. Bon, on va aborder ce chapitre évidemment de douloureux pour Russell. Le problème fiabilité, là, ça devient invraisemblable ce qui se passe. Mais bon, surtout pour lui.
On va en parler évidemment, mais en parallèle de la joie du champion du monde en titre Lando Norris, le malchanceux du jour, c'était évidemment Oscar Piastri. Il a fait un excellent départ, meilleur que celui de Lando, on l'a dit. Il semblait avoir même la course en main un temps. Après, il a dû jouer avec du trafic au moment des arrêts. Son accrochage avec Carlos Sainz est finalement de la casse mécanique. On l'écoute. Je crois que quelque chose a cassé dans la boîte de vitesse. Je ne pouvais même plus passer les vitesses. Apparemment, la voiture allait bien après le contact. J'étais énervé, c'était embarrassant. Mais niveau rythme, je n'ai toujours pas eu de réponse. Jean-Luc, est-ce que Piastri peut nourrir des regrets ou est-ce qu'il doit surtout retenir qu'il avait en début de course le rythme pour potentiellement aller chercher les premières places?
Ah, il peut nourrir des regrets parce que je pense quand même que le podium était pour lui. Ça, c'est même si Norris, et tu l'as dit, Thomas l'a dit, vous l'avez dit, on le pense tous, c'est Norris, c'était l'homme de la course. Hein. Il maîtrisait sa monoplace, il était plus rapide dès le début. Enfin bon, à part le départ, mais donc a priori c'était pour lui. Mais Oscar aurait dû terminer deuxième, c'est évident. Il y avait de la place, hein, en plus, hein, puisque Verstappen termine à 15 secondes, il y avait largement de la place. Alors après, bah oui, on a parlé des stratégies qui ont été différentes, elles ont été appliquées. Et là, je reçois tout à fait ce qu'a dit Andrea Stella, qui lui aussi essaie d'être honnête, hein, dans ses débriefs. On a bien arrêté comme il fallait Oscar Piastri en premier, 17e tour, Lando Norris au 18e. Ensuite, on l'arrête bien au 37e, ça se passe bien. Et puis malheureusement, tu viens de l'évoquer, il y a cet accrochage avec Sainz. Alors, par parenthèse, là aussi, un petit gag, les pilotes se plaignent, n'en peuvent plus parce que, évidemment, au tableau de bord, le fameux feu bleu qui les concerne directement et puis les panneaux lumineux avec leur numéro. Bon, bah, on a fonctionné quand même pendant des dizaines d'années sur tous les circuits du monde avec des drapeaux bleus. Enfin, je veux dire, je ne veux pas insulter Sainz, que je respecte infiniment aussi, mais quand on est en bagarre avec Fernando Alonso pour la 15e place et qu'on est à plus de la moitié de la course. On se doute bien que s'il y a des drapeaux bleus, c'est qu'il y a quand même les hommes les plus rapides qui se rapprochent, non ? Enfin, je sais pas, moi, ça m'aurait interpellé un tout petit peu. Donc... Alors après, qu'au moment où l'accrochage se produit, et on l'a bien vu, la position de sa monoplace ne lui permet pas de savoir exactement où se trouve Oscar Piastri. Oui, ça c'est vrai. Il suffit de regarder. Hein. Lui, il est complètement en perdition à l'extérieur à la fin du virage numéro 2, alors que Piastri est bien à l'intérieur parce qu'il a plus d'adhérence. Donc c'est normal, il ne veut pas perdre une seconde. Et puis il sait qu'il a son équipier qui va s'arrêter bientôt. Donc attention à l'undercut, là, il se dit, ou l'overcut plutôt. Piastri, il est dans son rôle. C'est normal qu'il soit ulcéré par ça. Heureusement, sa monoplace n'est pas détruite, mais il perd du temps, en revanche. Et ce temps, ben, c'est ce qui permet évidemment à Norris de passer devant. Et là, Oscar, il sait que c'est foutu, hein, c'est le cas de le dire, puisque l'écart se creuse immédiatement et Lando s'envole, alors qu'il aurait pu espérer le tenir derrière. Oui, il y a de la frustration, il y a de la colère. Je pense que ça va un peu au-delà, je me répète, hein, mais on ne va pas ressortir, mais si, on va les ressortir, ces vieilles histoires de partirait-il de chez McLaren, alors pour aller où ? Bah évidemment, on peut rocker avec Verstappen, hein. ça reste une idée dans l'air.
Qu'est-ce que t'en penses, Thomas ? Comment tu juges ce contact et aussi la gestion du cas Piastri par McLaren ?
Bah pour le contact, c'est vrai, comme dit Jean-Luc, hein, Sainz ne peut pas dire que Piastri ne l'a pas vu, dans le sens où il était derrière lui. Il y a plusieurs extraits qui tournent sur les vidéos de la caméra embarquée, sur les fameux panneaux drapeaux bleus. Il y a 3-4 fois où on avertit Sainz qui a une voiture plus rapide derrière lui. Donc sur ce côté-là, je trouve que c'est un petit peu osé de dire de la part de Sainz, que je respecte aussi également, de dire « Ah ben non, je ne l'ai pas vu ». Peut-être que oui, dans le sens où sur la position de la monoplace au moment où il y a ce contact, pourquoi pas, mais il aurait quand même pu le laisser passer bien avant. Ça aurait déjà évité ce contact et surtout ça aurait évité à Piastri de perdre du temps qui aurait été précieux. Après, pour la gestion, ben, malheureusement, je trouve que c'est toujours Piastri qui trinque à la place de tout le monde. Hein. C'est lui qui paye l'addition à chaque fois. Jean-Luc, tu le disais, hein, les histoires, il n'y a pas de hasard. Il y a un sacré précédent, hein. On va pas. Donc là, je pense que Piastri, et puis on l'a vu un petit peu mécontent à la radio quand on lui a dit non, mais si on perd la course, c'est à cause de ce contact. Il a dit ne me parlez plus, c'est bon, je coupe la radio jusqu'à la fin. Et malheureusement, la malchance a continué à lui jouer des mauvais tours puisqu'il a eu un problème de boîte de vitesse, comme on l'a entendu. Donc là, je pense que lui aussi, ça va lui faire du bien ce break de 3 semaines histoire de se remettre un peu. Alors, les idées en place, il doit les avoir, je n'en doute pas, mais repartir de manière un peu plus sereine. J'espère que Piastri reviendra au premier plan à Zandvoort et qu'il aura la capacité mécanique avec sa voiture pour s'illustrer et être à la place où il devrait être, c'est-à-dire devant.
En tout cas, après le Grand Prix, il n'a pas décoléré. Et pour cause, les deux pilotes ont réagi par médias interposés. Carlos Sainz a simplement dit, en effet, qu'il ne l'avait pas vu venir, mais aussi... Je cite, c'est dommage pour lui, mais je n'ai pas besoin de lui parler, c'est la course, je ne m'excuserai pas. Pourquoi pas ? Oscar Piastri a rétorqué, je m'en fiche de ses explications. Il se bat avec Fernando comme s'il se battait pour le titre et ça m'a coûté la course. Il est très critique envers les autres pilotes, mais je pense qu'il devrait un peu se regarder dans la glace. Jean-Luc, est-ce que tu es plutôt Team Carlos ou Team Oscar sur cet incident-là et sur leur réaction ? Et aussi, est-ce que la sanction est suffisante selon toi ?
Ben je suis Team Oscar parce que encore une fois, bon, c'est pas qu'on doit dégager le terrain à toute force des favoris, etc. Mais enfin, je l'expliquais tout à l'heure, les drapeaux bleus, ça existe depuis que la course automobile existe. Un drapeau bleu, ça veut dire tu es rejoint, il y a quelqu'un qui arrive derrière. Alors oui, il savait pas si c'était pour lui ou pour Fernando Alonso. Non, excuse-moi, je sais plus à combien de Grands Prix il en est, mais enfin, énormément. Carlos Sainz, il a énormément de métiers. Non, ça c'est de la mauvaise foi. Je crois que c'est surtout, tu sais, il me revient en mémoire cette vieille chanson de Claude François, le mal aimé, je suis le mal aimé. Je sais pas si vous avez, je sais pas si ça vous parle ou pas, mais moi,
il l'est complètement.
Voilà, bah écoutez, c'est ça. C'est-à-dire que Oscar Piastri est le mal-aimé dans l'écurie, ça c'est une évidence absolue depuis l'an dernier, je le dis, je le répète et j'enfonce le clou là où ça fait mal, de même que Russell est le mal-aimé chez Mercedes, on va y venir aussi, et puis là, alors Carlos Sainz, lui, c'est pas qu'il soit le mal-aimé chez Williams, c'est que la Williams est en dérive totale par rapport aux espoirs suscités l'an dernier, hein. On rappelle quand même qu'il vient de chez Ferrari où il avait gagné les Grands Prix, et il a encore des ambitions, il a encore qu'une trentaine d'années, 31 peut-être maintenant. Ouais. Donc il a encore des espoirs de, non seulement de victoire, mais lui, il croit en lui et il a raison, Carlos. Donc il est frustré. Puis là, il se bat avec Alonso qui était nulle part depuis le début de la saison. Donc il dit non, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette Aston? On en est là. Et ben oui, on en est là parce qu'Aston a progressé et Williams ne cesse de descendre dans la hiérarchie. Donc non, il aurait dû s'excuser, dire écoute, je suis désolé, oui, je t'ai pas vu à ce moment-là, mais j'aurais dû savoir que t'arrivais et j'aurais dû te laisser passer. Donc je suis Team Oscar pour te répondre.
Très bien. En tout cas, week-end de la résurrection, de la renaissance pour McLaren qui doit sans doute repartir rassuré par sa performance globale sur ce Grand Prix de Hongrie, juste derrière Lando Norris. Il y a un homme qui a enchaîné un deuxième podium de suite avec une monoplace totalement imprévisible. Et quand on le voit faire, on se dit quand même que c'est un immense champion. C'est l'heure du coup de cœur de Jean-Luc.
Oh yes, ladies and gentlemen,
il faut arrêter la Formule 1 parce que ça ne sert à rien.
Après, il s'est lancé dans une remontée vraiment à couteau ouvert.
Les moteurs de trottinette ou de tondeuse à gazon.
Mais écoute, s'il n'est pas gonflé comme une pendule. Et la queue du Mickey au rétroviseur aussi, t'es d'accord?
Jean-Luc, je sais à quel point tu l'adores, Max Verstappen, mais là, ce qu'il est en train de nous réaliser, malgré une monoplace défaillante, selon ses dires, c'est quand même exceptionnel.
Écoute, voilà, j'admets tout à fait qu'on me taxe de partialité, de favoritisme et de tout ce qu'on veut. Je ne suis pas fan parce que j'aime pas le mot, puis j'aime pas la manière. Fan, ça veut dire tout aimer. Et je crois que quand Verstappen a fait des bêtises, pour ne pas dire des conneries, dans sa carrière, je l'ai dit, comme évidemment tout le monde s'en rappelle, bonjour, en Espagne l'an dernier, encore une fois. Mais là, c'est remarquable ce qu'il fait parce que il ne triche pas, ce garçon-là. Il vous dit la vérité. Et on l'a vu encore, son tête à queue dans sa deuxième tentative en qualif, hein, tête à queue qui entraîne la sortie du drapeau jaune et donc après la pénalité qui s'applique à Kimi Antonelli. Bon, ça a toujours des conséquences. Bah, apparemment, il semble bien que ce soit encore un problème avec l'aileron arrière parce que la monoplace était tellement survireuse, il a dû composer avec ça tout le Grand Prix. Donc une monoplace qui vaut pas grand-chose. Hein, et j'allais dire, avec le talent maintenant et toute la constance d'Isaac Hadjar, faut voir où il termine, hein, Isaac. Hein. Il termine à 55 secondes quand même. Donc c'est un gouffre. Ça veut dire que le talent de Verstappen est étincelant. Je le dis, je le répète, c'est le meilleur pilote de la grille. Il arrive à faire des miracles et à être opportuniste avec évidemment des très bons arrêts aussi. Puis alors, il fallait oser quand même lui coller des pneumatiques soft pour le dernier relais. Même lui, il n'y croyait pas. Hein. Là, il faut être honnête. Il l'a dit d'ailleurs à la radio. Il dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait là? Je vais jamais y arriver. Et puis les autres, est-ce qu'il y a d'autres preuves autour de nous? Alors l'ingénieur, petite voix, oui. Bon, en tout cas, il l'a fait. Il a été un peu servi, évidemment, par le safety car qui lui a permis d'économiser un peu les pneus quelques tours. Et puis, ne s'étant pas arrêté à ce moment-là, évidemment. Bon, mais ça fait partie de la course. Moi, je dis toujours que la chance, ça se provoque. Hein. Ça se provoque avec le talent. Écoute, moi, il me bluffe littéralement, Verstappen. J'espère que lui aussi, il va quand même en mettre une au compteur cette saison. Dans le contexte actuel, ça paraît un peu difficile, tellement la Red Bull fait preuve d'aucune constance et c'est très difficile. Et là aussi, on va rendre hommage dans la foulée également à Isaac de s'en sortir aussi bien avec une monoplace aussi imprévisible. Mais bon, Verstappen, il est d'une classe à part, il est au-dessus de tout. Et puis évidemment, dans sa tête, il doit se dire, et si j'étais dans une voiture orange, si j'étais dans une voiture rouge, qu'est-ce que je ferais? Ou voir dans une voiture grise. Ça doit s'immiscer un petit peu dans son esprit à quelques moments.
Thomas, c'est difficile de ne pas être d'accord avec Jean-Luc. On est d'accord que cette deuxième place sur ce Grand Prix, elle était à la fois inespérée, mais que d'un autre côté, son talent, il contrebalance absolument toutes les difficultés qu'il peut rencontrer.
Jean-Luc le disait, c'est miraculeux avec une voiture qui, dès le début du week-end, on n'avait pas trop d'espoir, entre guillemets, chez Red Bull d'être sur le podium. Quand on voit les essais et les radios de Verstappen se plaignant quasiment à tous les tours, chronométrés, il y avait très peu d'espoir. Et quand on voit le Grand Prix d'hier, les dépassements qu'il fait, notamment au premier virage sur Lewis Hamilton, où c'est quand même osé en début de Grand Prix... Il a très bien joué le coup, mais le rythme n'était pas forcément là, et pourtant c'est le meilleur des autres derrière McLaren. Et il a même dit en conférence de presse, je ne m'attendais pas à arriver là, quoi. Donc ça montre, oui, que que Verstappen, comme tu le disais, Jean-Luc, est le meilleur pilote actuellement avec ce type de voiture. Je ne pense pas qu'on mettrait un Oscar Piastri ou même un autre pilote avec ces voitures-là. Je ne suis pas sûr que ces pilotes-là feraient la même performance que Max. Et d'ailleurs, Laurent Menkès, le patron, le dit, on est un petit peu désolé de ne pas pouvoir mettre à disposition une voiture plus performante pour Verstappen, ouais. Parce qu'on sait que s'il avait une voiture plus performante, ce n'est pas une deuxième place qu'il jouerait, c'est une première place et peut-être de façon régulière.
C'est ce que j'allais te demander, Jean-Luc. Oui, vas-y Jean-Luc.
Oui. Je t'en prie, non, j'allais juste rebondir sur ce que disait Thomas à l'instant. Eh ben, on essaie de le garder, hein. Faut toujours le rappeler quand même. On essaie déjà de le garder en Formule 1, parce que l'éventualité d'un départ de la Formule 1, j'y crois de moins en moins. J'y ai cru un moment, vraiment en début de saison, tellement il était écœuré. Là, je pense qu'il restera. Alors, la solution de facilité, c'est rester chez Red Bull, puisqu'il a un contrat qui court, hein, il faut le rappeler quand même, jusqu'en 2028. Donc, s'il n'actionne pas cette fameuse clause du contrat, dont tout le monde dit que c'est la deuxième place, moi, personnellement, c'est vraiment, je m'avance, je ne l'ai pas vu, mais j'ai un doute. Je pense que c'est dans les trois premiers, parce que deux, c'est tellement énorme, que, ou alors Red Bull est complètement flingué d'avoir signé un contrat comme ça. Bon, mais peu importe, en tout cas, il peut actionner la clause, évidemment, puisqu'il est loin au championnat. Le fera-t-il ou pas? C'est ce que d'ailleurs lui répond et son manager Vermeulen répond également, mais cette clause, on l'a depuis le début, donc on l'actionne ou on ne l'actionne pas. Donc on essaie de le garder à la maison, pour revenir au sujet. Et effectivement, Laurent Mekies et surtout les centaines, les milliers même de personnes qui travaillent à l'usine font tout ce qu'il faut pour le conserver. Parce qu'effectivement, là, si jamais il s'en allait et qu'il était remplacé, bah, on vient de l'évoquer, il y avait on dit on rock, au jeu d'échecs, on remplace effectivement Verstappen par Piastri et Lycette Versailles, bah, là, je peux vous dire que ce ne serait pas la même histoire, mais du tout. Parce que je pense que l'input, on va dire la pression qu'il met sur l'équipe, l'exigence extraordinaire qu'il a, c'est le meilleur pilote du monde, dynamise tout le monde, et ça, personne n'y peut rien, hein. C'est comme ça que ça se passe, électrise tout le monde. Alors maintenant, et vous l'avez vu aussi, il y a eu ces fameuses photos qu'on a montrées, où c'est le seul qui reste, hein, c'est le seul des dinosaures de chez Red Bull, tout le monde est parti ou tout le monde a été viré. Donc, aura-t-il envie de continuer l'aventure? Ça, c'est la grande inconnue de cet été et de la fin de saison.
Ça va nous tenir en haleine, en tout cas, mais on a... Vous avez commencé à en parler, évidemment, quand même l'impression, Thomas, que Red Bull se heurte à un plafond de verre, un plafond de verre très épais d'ailleurs, qui s'appellerait un manque de fiabilité ou de régularité, et qui fait que à chaque Grand Prix, il y a une écurie qui sort du lot et qui est devant eux, malheureusement.
Exactement. Tu as carrément mis le constat qui est là. Red Bull se heurte à ce plafond de verre qui n'arrive pas à percer pour l'instant. Pourtant, on a essayé d'apporter des améliorations, mais des améliorations qui, je parle pour le cas de Max, qui ne portent pas ses fruits. On va encore une fois rappeler cet aileron un petit peu à la façon Macarena qui n'a pas du tout apporté satisfaction à Max.
Qu'ils ont enlevé très vite d'ailleurs.
Qu'ils ont enlevé très vite avec une voiture jugée dangereuse pour que Max Verstappen qui a eu un pilotage un petit peu agressif, disent que cette voiture est trop dangereuse pour lui. C'est que quand même, il y avait de gros soucis sur cette voiture. Mais pour l'instant, la mayonnaise n'a pas pris avec cette réglementation. Les améliorations qu'on a apportées, elles n'apportent pas tout à fait la satisfaction qu'attendent Max Verstappen, mais aussi Isaac Hadjar. Comme je le disais tout à l'heure, Laurent Menkès le dit lui-même, hein, il l'avoue, on n'a pas mis à disposition une voiture pour gagner. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Moi, je pensais que le Grand Prix d'Hongrie allait être celui qui allait ramener un petit peu en haut de l'échelle Red Bull. Il y avait McLaren qui était beaucoup plus forte. C'est quand même un sentiment positif parce que deux podiums consécutifs, même si on a tendance à parler de miracles, oui, de louer les louanges, voilà.
Pour autant.
Il y a quand même un deuxième podium engrangé, ce qui est pas mal. Maintenant, il faut continuer à travailler parce que là, on va arriver sur des... Surtout, on arrive chez Max au prochain Grand Prix, à Zandvoort. Et donc, je pense qu'il sera un peu plus tatillant puisque c'est chez lui, il a envie de faire une belle performance. Donc, mais il y a quand même du positif. Max qui engrange des podiums, Isaac Hadjar qui fait son septième top 6. Donc, il y a quand même du positif, mais je suis quand même un petit peu... Je reste sur ma fin, entre guillemets.
Un mot d'Isaac Hadjar, justement, Jean-Luc. Le Français, une nouvelle fois très solide, mais surtout une image marquante de ce week-end au 19e tour. Il a littéralement bouchonné les McLaren pour, entre guillemets, aider Max Verstappen. on peut dire qu'on ne l'avait peut-être pas forcément vu depuis le début de saison, mais qu'il a fait le sale boulot d'un numéro 2 chez Red Bull et qu'il l'a plutôt bien fait.
Ah, il l'a très bien fait. Ah ben écoute, solide, très solide, voilà, c'est l'expression qui me revient en mémoire, avec une voiture très difficile à exploiter. Il n'est quand même que dans sa deuxième saison, hein. Donc effectivement, il tombe pas. Alors, c'est marrant parce que effectivement, ses résultats, en tout cas en qualif et puis en course, vont avec la voiture. Bah là il a fait le mieux qu'il pouvait avec ce qu'il avait entre les pattes, et bien sûr, il a joué son rôle d'équipier modèle, comme il l'avait fait lors du dernier Grand Prix avec Verstappen dès les essais, hein. Donc bah là, il est en train de marquer des gros points. Encore une fois, la question dans les GG du sport, mon Kylian, c'était aussi est-ce qu'il a sa place. Bah pour le moment, oui, je vois pas. Même si, encore une fois, ça pousse derrière, hein, Lindblad, etc. Lawson, qui fait des grands prix aussi, on va peut-être avoir une minute pour en dire un mot, mais qui se débrouille vraiment très très bien, là, qui a totalement digéré sa déconvenue de l'an dernier et qui se remet au boulot. Donc, non, il a assuré sa place, il fait le boulot, il est solide, il est sérieux. Maintenant, il faut lui donner une monoplace capable de lui permettre de jouer les podiums, au moins de jouer les podiums régulièrement. On en est là. Et là, je répète, 55 secondes, c'est un gouffre, hein. En course, c'est quand même énorme. Alors, il a bouchonné, il a fait son boulot. Il était à sa place, il n'était pas un tour. Il a résisté autant qu'il a pu sur un circuit où, on va dire, c'est moins difficile de résister que sur d'autres, c'est très bien fait, c'est super boulot, il prend les points. Alors après, il y a eu les problèmes de Russell, ça dégage les bronches, et puis l'abandon de Piastri, hein, il faut toujours le rappeler qu'il aurait dû faire deux, donc du coup, il fait sixième, c'est super.
Parfait, écoute, on en a parlé dans les grandes gueules du sport, tu l'as dit, effectivement, est-ce que Thomas, ce caractère qu'il a aussi, le fait qu'il arrive à oser aller à l'encontre de son écurie, parler aussi, critiquer sa monoplace, est-ce que c'est aussi ça la marque des grands?
Oui, clairement. Et puis, on voit que l'objectif à terme, c'est d'arriver au niveau de Max. Hein. Il a dit encore ce week-end, quand on voit ce qu'arrive à faire Max Verstappen, mais ça donne encore un boost d'énergie, à travailler encore plus d'arrache-pied pour justement atteindre les mêmes performances que son leader, hein, puisqu'on le cantonne un petit peu encore à ce poste de numéro 2, ce baquet un petit peu maudit, hein, à côté du quadruple champion du monde néerlandais. Mais là, franchement, il y a de bonnes raisons de croire que avant la fin de la saison, il va aller en chercher un podium.
C'est ce que j'allais te demander, Jean-Luc. On est gourmand, évidemment. Enchaîner les top 6, c'est génial. Mais est-ce qu'on n'a pas envie aussi que lui, il arrive à exploser ce plafond de verre? Et est-ce qu'il en a les capacités d'ici la fin de saison?
Mais bien sûr, mais lui aussi est gourmand. Mais là aussi, quand je suis toujours un tout petit peu sur la réserve, parce qu'il y a tellement de personnes qui s'enthousiasment, et je peux le comprendre, il n'a pas réalisé l'exploit pour moi. Je l'ai déjà dit, l'exploit, tu vois. L'exploit, c'est une course à la Verstappen. Voilà, alors, on ne peut pas attendre ça de lui, mais c'est se battre pour le podium et surtout, c'est y monter. Parce que le pauvre, il était monté à Monaco, mais on l'en a privé. Bon, on rappelle qu'il est déjà monté sur un podium l'an dernier à Zandvoort, hein, effectivement. Mais bon, il montait à la régulière. Je dirais, ça c'est un exploit. Moi, c'est ça que j'attends pour me dire génial. Là, on y est. Là, vraiment, c'est quelqu'un qui va se battre pour les podiums. Alors, pour ça, il lui faut la monoplace. Je sais bien qu'il fait tout ce qu'il peut. Hein. Il lui faut la monoplace. À ce moment-là, d'ailleurs, Verstappen se battra lui pour la victoire, évidemment. Donc, ça, c'est certain. Et puis, comme vous venez de l'évoquer tous les deux, et à juste titre, qu'est-ce que c'est merveilleux pour un jeune pilote en début de carrière, il aura bientôt 22 ans seulement, d'avoir un exemple comme celui-là. Parce que là aussi, il y a deux cas. Hein. Quand on côtoie comme ça, vraiment une fulgurance, une étincelle, on sait que Senna ou Schumacher, pour ne citer que ces deux-là, ont carbonisé d'autres pilotes qui, à part ça, étaient bons, voire très bons.
Max l'a fait aussi. Avec certains.
Exactement. Max l'a fait aussi, bien sûr. Non, je remontais un tout petit peu dans le passé. Bien sûr qu'il l'a fait. Donc là, si tu veux, le fait de ne pas être atomisé, c'est déjà une performance absolument remarquable. On y revient. De ne pas être atomisé dans la durée, c'est encore mieux. Et puis, de pouvoir, on vient de le dire, l'exploit, ce sera de se battre pour les podiums et surtout de monter dessus. Alors là, j'espère avant la fin de la saison, là, on en parlera. Et puis après, sur un podium, il y a trois marches. Hein, donc, il faudra
il
monter
peut prendre celle qui veut.
Voilà, exactement.
Vas-y, Thomas. Et puis pour rebondir sur ce que tu dis, Jean-Luc, je pense que Max aussi doit regarder ça d'un œil assez positif parce que on le sait, les derniers coéquipiers qu'il a eu. Alors je loue tout mon respect à Lawson, à Pérez, pour ne citer que Gasly aussi notamment. Mais quand on a un deuxième pilote qui arrive à engranger
ça
de gros
motivant,
points, c'est motivant Et c'est énormément motivant. Il sait qu'entre guillemets, le poids de l'écurie, et encore une fois, hein, je loue tout mon respect à tous ces pilotes qui sont passés par ce baquet entre guillemets maudit, mais quand on a un pilote qui arrive à faire de grosses performances, à engranger des gros points derrière lui, eh ben, c'est un boost aussi phénoménal et ça permet voilà, d'échanger, de voir comment on peut améliorer cette voiture de manière plus concrète plutôt que d'avoir un second pilote qui joue les 7, 8, 9, 10 places à gagner 1 ou 2 points par Grand Prix. Là, c'est vraiment solide ce qu'il fait et je pense que Verstappen le voit d'un très bon œil, ses performances.
Mais si on va avancer un petit peu, on a parlé de Lando Norris vainqueur sur ce Hungaroring, de Max Verstappen deuxième pour compléter le podium, Kimi Antonelli troisième et plus que jamais leader au classement des pilotes, 50 points d'avance sur son dauphin à la trêve estivale. Il partait septième à cause d'une pénalité pour infraction sous drapeau jaune, on l'écoute. Ça a été difficile. Il a vraiment fallu se battre pour ce podium. Ça n'a pas été simple du tout. On a eu du mal aussi niveau rythme ce week-end. McLaren était plus rapide, Ferrari était bien aussi. Mais on a bien travaillé en tant qu'équipe. Le dernier relais était vraiment, vraiment intense. J'ai failli déconnecter la radio parce que j'avais vraiment besoin de me concentrer. Lewis, c'était juste derrière. Jean-Luc, c'était pas le week-end le plus facile pour Kimi Antonelli, mais il s'est bien battu et il prouve là encore qu'il a les capacités pour être un potentiel champion du monde.
Écoute, il est fantastique ce gamin, encore une fois, toujours 19 ans, bientôt 20. Bon, il sera âgé là maintenant. Et je sais à quoi il ressemble, ça y est, j'ai trouvé ce week-end. C'est un félin. C'est un félin, c'est un jaguar, c'est un puma, c'est un cougar. Il retombe sur ses pattes d'où qu'il tombe, c'est absolument incroyable. Alors bien sûr qu'il a été frappé lui aussi par des problèmes mécaniques, et là c'était le cas en Espagne, on n'y peut rien, là c'est comme ça, bon la branche casse, il est obligé de tomber par terre, pour reprendre la métaphore, mais là c'est incroyable, il a filé entre les gouttes. Alors son erreur de qualif, je vais y revenir, parce que c'est pas une erreur, puisque en Autriche il considère qu'il en fait une, puisqu'il lève trop, il croit qu'il y a un double jaune, vous vous en souvenez, hein, après la sortie de Verstappen, donc il est un peu trop prudent, il dit ok, j'ai compris. Alors cette fois, il est un peu pas trop assez prudent, c'est-à-dire qu'effectivement, oh, il lève, c'est infinitésimal. Là, les commissaires lui disent bon, attends, là, t'es gentil, mais t'as perdu 3 millièmes de seconde, on va pas dire que t'as ralenti dans le secteur. Donc, il prend la pénalité. Bah, je pense qu'il va intégrer les deux maintenant. Il va dire ah, bah, d'accord, donc la vérité, c'est au milieu. Alors, du coup, il part septième, c'est quand même pas un cadeau, hein, parce que dans les pattes, on lui met, bon, j'allais dire le pauvre George Russell qui est auto-éliminé tout seul, et c'est pas de sa faute, on va y revenir aussi, oui. Mais on lui met quand même Hamilton et Verstappen, c'est pas rien, c'est des gros morceaux, hein. On lui met juste 11 titres de champion du monde devant, et il monte sur le podium. Alors là aussi, il fait le boulot, remarquablement bien, servi par une très belle stratégie, hein, vraiment, qu'il applique à merveille. Non, on est obligé de redire la même chose à chaque fois. Quand on le regarde agir, quand on le regarde fonctionner, quand on le regarde réfléchir, observer, on se dit qu'il a la maturité d'un pilote qui a 10 ans de Formule 1. Quoi. C'est incroyable. Et lui, la sérénité, il l'a déjà. Il n'est pas du tout dans l'urgence. Donc, il termine cette demi-saison, parce qu'en gros, ça va être ça. C'est ça, on va dire un mot de la clownerie de la Malaisie un petit peu après, je pense. Mais puisqu'on va nous en ressortir peut-être encore un autre. Mais en fait, il est capable à la mi-saison de conserver une cinquantaine de points d'avance sur ses adversaires. Il atomise son équipier. Là, je dirais que là encore une fois, si la branche ne casse pas, bon, alors le plus dur c'est de gérer, mais je pense qu'il va pas agir comme ça. Il va continuer à attaquer comme une bête, comme un puma. Comme un puma, c'est ce qu'on attend de lui.
Thomas, on est d'accord qu'il part en vacances sereinement, Kimi Antonelli. Il a quasiment, j'ai pas envie de dire le titre en poche, mais 50 points d'avance, c'est deux quand même victoires d'avance sur son dauphin, c'est énorme.
Moi, quand j'ai regardé le Grand Prix, à la fin, je me suis dit, je crois que c'est le week-end depuis le début de la saison où il a, entre guillemets, le plus galéré. Où Mercedes...
Il était essoré à la fin.
Voilà. C'était un petit peu le plus gros test qu'il ait eu depuis le début de la saison. Dans le sens où, dès les premiers essais libres, on a senti quand même Mercedes un cran en dessous. Et pourtant, il ne s'est pas démobilisé. Et oui, il a fait une course digne d'un pilote qui est déjà peut-être champion, double, triple champion du monde. Alors, double champion du monde, triple champion du monde, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, une mentalité, une visibilité de la course qui a fait que, ben voilà, il se retrouve sur la troisième marche du podium. Peut-être que d'autres pilotes à son âge, qui auraient été un petit peu confrontés à cette, pour la première fois à ce genre de situation avec une voiture qui, sur le papier, est la meilleure, mais qui, là, bute sur un plafond de verre, hein, on va reprendre encore cette expression, se serait complètement effondré. Eh ben lui, non, il s'est pas du tout effondré. Et là, franchement, là, il peut partir trois semaines tranquille. J'en parlais il y a quelques semaines. Ça peut arriver très vite. Hein. 50 points, c'est deux courses, OK. Mais ça peut fondre comme neige au soleil. J'avais employé cette expression. Ouais. Là, on a vu que Mercedes était un petit peu en difficulté. Il ne s'est pas démoralisé. Donc, s'il y a d'autres difficultés au cours de la saison, notamment sur la fiabilité de Mercedes, mais qui garde cette même façon de gérer son week-end, ben, je pense que le titre est acquis.
Oui, il y en a un qui est démobilisé, et on le comprend. Évidemment, c'est George Russell qui termine 7e, la faute à un départ catastrophique. Il est resté scotché sur la grille et il s'en est expliqué après la course. J'ai juste appuyé sur l'accélérateur. Le moteur est monté comme un fou dans les tours jusqu'au rupteur. J'ai relâché l'embrayage, j'ai atteint mon objectif normalement, sauf que l'anticalage s'est déclenché, on ne sait pas pourquoi. Je vais juste ajouter ça à la liste des choses qui me sont arrivées cette saison. Il en rigole, Jean-Luc, mais il en bave, notre bon vieux George Russell. On a presque de la peine pour lui.
Ouais. Ouais. Écoute, ça fait de la peine, ça finit par faire de la peine, oui, parce que bon, encore une fois, là, il y a pas de, on va avec quoi le sujet tout de suite. Il a pas de chance, ça tombe sur lui, quoi. Ouais, lui, pour le coup, c'est un paratonnerre. Vous savez, on a toujours, je vais pas utiliser la suite parce que c'est grossier, mais quand on en a un autour de soi, on est tranquille parce que ça tombe toujours sur lui. Bah, on a l'impression que le pauvre Russell, là, il est maudit. Alors heureusement, en course, il s'est pas démobilisé. Hein. Il faut le rappeler là aussi. Bon, les analyses, on nous dit, il était 18. 20e, 22e, ben non, il était dernier de ceux qui roulaient, puisqu'il y en a deux qui sont partis depuis les stands, oui. Donc voilà, donc il était dernier, et en fait, il a remonté rapidement, je crois qu'au 17e tour, il était 10e, c'est ça, il entrait dans les points, donc c'est pas mal du tout, il fait un tour en course qui est tout à fait honorable, vous savez que moi, j'accorde pas mal d'importance à ça, alors après, il faut les expliquer, mais au 58e tour, il tourne en 1.22.589, ben écoutez, on parlait d'Antonelli, il tourne en 1.22.415, c'est pas énorme, il y a un dixième et demi, bon, c'est pas la mer à boire. On n'est pas du tout dans la même logique. Donc, il ne s'est pas désuni, il ne s'est pas découragé, il n'a pas baissé les bras. Mais là, il doit considérer que la coupe est totalement pleine. D'ailleurs, même Toto Wolff, qui pourtant a toujours les mots, là, il ne les avait plus. Il dit, ben, on ne sait pas, c'est à un point, là, on ne sait plus ce qui se passe. Avec l'anticalage qui, soi-disant, se met en route au moment du départ. Lui, il a dit, et c'est ça qui m'inquiète plus, moi, dans, une nouvelle fois, dans ces monoplaces de cette année, il a dit que le moteur s'était emballé tout seul. Non, mais vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que la pédale des gaz, qui est virtuelle, hein, c'est pas connecté par un câble, vous le savez bien, c'est tout un tas de processeurs et de gremlins qui sont là au milieu, bah, le moteur s'emballait tout seul. Donc évidemment, comme ça s'est emballé trop, bah, après, il y a le dispositif d'anticalage et il s'est retrouvé dernier. Mais c'est dangereux, j'y reviens, c'est très dangereux ça, parce qu'il était à l'arrêt en plein milieu de la grille. Heureusement, tout le monde derrière l'a évité une nouvelle fois. Ça ressemble encore une fois à Verstappen au départ du Grand Prix de Monaco. Bref, pour parler de George Russell, bah là, écoute, j'espère qu'il ne va pas traîner sa peine comme ça jusqu'au terme de la saison. J'espère qu'à partir de maintenant, à partir de cette trêve, eh bah, il va être épargné par le sort. Il ne va plus être accablé par ce sort qui s'acharne. Et j'espère surtout que chez Mercedes, on va arriver à trouver une fiabilité correcte quand même pour la meilleure équipe, en tout cas celle qui est en tête du championnat du monde.
Ça se complique pour Mercedes, mais c'était également très compliqué pour Ferrari ce week-end. On les pensait quasiment inatteignables avant le début de ce week-end en Hongrie. Pour autant, rien ne s'est passé comme prévu. Thomas, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Un pétard mouillé. C'est comme ça que je résumerai le week-end de Ferrari. On les attendait, surtout après la première séance d'essai libre où ils font 1-2. Donc là, on s'est dit... Ben ça repart dans la continuité des bonnes performances depuis quelques week-ends. Et sur le Grand Prix, ben on a vu qu'il y avait, encore une fois, Lewis Hamilton fait une petite erreur à la sortie des stands qui lui vaut une pénalité. Manque aussi, je pense, de rythme, parce qu'au début de la course, Lewis Hamilton bug blog sur Max Verstappen, alors que normalement, depuis les derniers Grands Prix, on aurait peut-être pensé que la Ferrari aurait fait qu'une bouchée de pain de la Red Bull, ben finalement c'est pas le cas. Et puis voilà, une stratégie encore une fois discutable, un comportement d'une voiture comme le disait Charles Leclerc qui ne comprend pas, alors qu'il pensait avoir retrouvé la confiance et le feeling dans cette voiture il y a de là quelques Grands Prix. Donc étonnant de la part de ce week-end, il y a un goudinage fait. Quatrième et cinquième, c'est pas là où on aurait pensé mettre Ferrari au début du week-end, au vu des performances qu'ils avaient fait à Spa, à Silverstone et en Autriche notamment.
Jean-Luc, comment tu analyses ces choix stratégiques, une nouvelle fois évidemment critiqués, décriés sur ce week-end par Ferrari ?
Ah, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Je sais pas comment on dit en Italie. Il doit y avoir quelques comédies du même genre, ou quelques tragédies plutôt, parce que en Italie, dès que ça va pas chez Ferrari, c'est tout de suite une tragédie. Alors effectivement, on pouvait s'attendre, comme vous l'avez dit, comme Thomas vient de le rappeler, à beaucoup mieux. Ils auraient dû finir 2 et 3, voilà, pour être clair, en admettant que Lando Norris était sur un nuage avec une machine intouchable, avec les malheurs de Piastri, ils devaient finir sur le podium et encadrer le vainqueur. Alors comment on n'y arrive pas? C'est ça la question.
Ouais, c'est un peu ça.
Ben, ouais. On n'y arrive pas. Alors avec, ben, là aussi, moi je vais être un poil critique après l'avoir autant encensé envers un septuple champion du monde. Vous me voyez venir.
Ouais,
comment Hamilton peut-il commettre autant d'erreurs en aussi peu de temps? Alors des petites, hein. Mais bon, après
ouais, mais que 4 pénalités en 3 grands prix quand même. Il en a pris une à Silverstone, ouais. Une à Spa. Il en prend 2 ce week-end. Une en qualif, une en course.
Il a voulu même, hein. ça peut jouer sur un championnat.
Ouais, si il, a pas dit, ses erreurs, il a dit, si je continue de donner au commissaire des occasions de me pénaliser, je ne vais rien gagner. Lors des 3 dernières courses, j'ai fait des erreurs coûteuses qui vont me faire perdre un titre.
Et ben voilà, alors c'est très curieux, après être passé, après cette victoire de Barcelone qui était, on va dire, la renaissance, hein, c'était tangible, ah, une victoire, enfin, depuis tellement longtemps, une victoire chez Ferrari, ça y est, on y est. Et alors, je sais pas, est-ce qu'il s'est un peu endormi, parce que l'attaque, tu rappelais Thomas, le dépassement fulgurant, là aussi, tu l'as rappelé, je l'ai pas voulu en mettre des tonnes, mais de Verstappen sur Hamilton, c'est génial, il en dépasse 2 d'un coup. Vous avez vu beaucoup de dépassements comme ça, vous, à part les yo-yo stupides dans les lignes droites? Mais ça, c'est une vraie attaque de pilote. Ça, c'est un truc de fou, hein. Il l'attaque, il le passe au freinage et après, terminé. Ça y est. Alors que Hamilton avait fait le boulot avec l'undercut. Il était devant, en plus. Il était devant. Donc, c'est absolument incroyable. Donc, il a pas été bon. Il l'a dit. Il n'a pas été bon. Alors, Ferrari n'a pas été bon. Charles, bah, il prend un départ. Alors, le moyen-as, hein, parce qu'on choisit les pneus soft. Il faut quand même le rappeler. Parmi les pilotes du début de la grille, ce sont les deux seuls. On se dit, ah ben, bah, génial, là. Ferrari, vraiment, surtout que s'ils partent devant, les deux, ça nous change toute la course, hein, on est bien d'accord. Les McLaren ne se baladent pas comme ça, ils sont dans l'air sale, il va falloir les dépasser. Enfin bon, ça change tout, la stratégie évolue, bref, c'est pas du tout le même Grand Prix. Et là, bah, on peut dire qu'il se rate. Alors, Hamilton lui prend un bon départ, hein. Il part cinquième, il est 3 tout de suite. C'est pas mal. Et puis après, il bute sur l'os Verstappen. Alors là où, effectivement, bah, Verstappen, après 4 titres et une bonne dizaine d'années de Formule 1, il a toujours une niaque formidable. Je me demande si Lewis s'était pas trompé en pensant que les vacances avaient commencé là, pour le Grand Prix de Hongrie. Non, je suis méchant, mais...
Non, mais Jean-Luc, je vais remettre une pièce dans ta machine. On a utilisé une expression qui est revenue énormément ces derniers temps, comme quoi on avait retrouvé le vrai Lewis Hamilton. Moi, ce week-end, j'ai eu l'impression de retrouver le Lewis Hamilton renfermé, pas souriant, déçu et presque impuissant qu'on a pu voir la saison dernière.
Tu as absolument raison. Et puis surtout, alors, s'en prenant injustement, à mon avis, à tout le monde. Parce qu'encore une fois, oui. Alors, on peut revenir dans le détail, si on prend 30 secondes. Allez, je ne vous fais pas plus. Sur la pole. Bon, il signe un temps extraordinaire. Génial. On se dit, ah bah la pole Hamilton, ici, lui qui a déjà gagné 9 fois, 8 poles, ou l'inverse, 8 et 9.
8 fois et 9 poles, tout à fait.
Voilà, c'est ça. Formidable et tout. Bon, génial. Après, il passe. Et bah, il sait très bien que, au contraire, Oscar Piastri l'a laissé passer dans le troisième secteur. Oscar, il est en lancement, il est en train de chauffer ses pneus. Lui, il joue bien le jeu, il regarde les rétros, il le laisse passer, il le laisse terminer son tour, décrocher la pole. Et après, il traîne au milieu dans le virage numéro 1. Ah ben oui, je ne l'ai pas vu, dit-il, comme un débutant. Ben non, vieux, ça ne marche pas. Je veux dire, il savait bien que Oscar Piastri allait arriver, il avait qu'à réfléchir un tout petit peu. Alors qu'il ne l'ait pas vu dans les rétros, c'est une évidence. Que chez Ferrari, on ne lui ait pas dit attention, il y a Piastri qui arrive comme une balle. Ok, mais il aurait dû de lui-même se dire, bon, ça y est, j'ai fait mon temps, je me range. change. Bah non, il le fait pas. Vous voulez que je sois atroce ? On dirait Schumacher, tiens, dans ses, après ses pôles souvent, qui traînait un petit peu au milieu, si vous voyez ce que je veux dire.
Bon, je vois. Très bien. Un mot de Charles Leclerc, juste Thomas, comment on définit ce week-end ? Il fait une quatrième place malgré tout. Pour autant, il a affirmé que c'était extrêmement compliqué pour lui de comprendre sa monoplace, que quand il avait l'impression qu'il pouvait remporter le Grand Prix, il finissait loin, et que quand il avait l'impression qu'il allait finir loin, il remporte le Grand Prix. On n'y comprend plus rien, en fait.
Non, je suis comme lui, je ne comprends pas. Je pense que, comme beaucoup d'autres pilotes, on a parlé de Russell, de Piastri, je pense que ça va lui faire du bien aussi, ce break. Il faut remobiliser les troupes à Maranello. Je l'avais dit déjà il y a quelques semaines, cet élan, il ne faut pas que ça s'essouffle, il faut vraiment continuer à travailler. Et là, on voit déjà un plafond, on arrive sur un plateau. Voilà, on a engrangé des points, on a engrangé des podiums et des victoires, et une victoire plutôt. Et là, bon, ben, on arrive sur un plateau où on arrive aux limites des performances de la voiture. Mais c'est vrai que... Même lui, il y a deux semaines, il disait qu'il avait retrouvé un feeling incroyable après les améliorations qui avaient été faites à Silverstone. Il avait vraiment le feeling pour gagner, pour tout gagner. Et là, il limite la casse avec une quatrième place. Mais clairement, au vu des performances des week-ends précédents, c'est pas là qu'on attend une Ferrari.
Messieurs, une ou deux questions un peu plus globales sur ce Grand Prix. On vous a fait écouter quelques réactions d'après-course, mais tous les pilotes, ou presque, ont évoqué la gestion difficile, douloureuse des pneus et la stratégie qu'il y a eu sur ce Grand Prix. Jean-Luc, quel regard tu portes sur le fait que toutes les écuries, ou presque, ont eu du mal à gérer cette gestion des pneus sur cette fournaise qu'est le Hungaroring ?
Alors, avec plaisir, j'y reviens si tu veux bien, mon Kylian. Un mot sur Charles, bah, lui aussi est passé à côté de son Grand Prix. Voilà, il rate le départ et après il n'est pas au niveau. Et là aussi, il a quand même une victoire au compteur. Hein, là aussi, participé à cette renaissance de Ferrari récemment. Mais c'est vrai que là, exactement ce que disait Thomas, aussi sont-ils partis en vacances un peu trop tôt. Bon, on va se remobiliser. Alors j'en reviens aux pneus. Bah, tu sais, la stratégie de Pirelli, quand tu es le manufacturier unique, hein, quand tu as le monopole, pour qu'on parle de ces ronds en caoutchouc noir aux quatre coins des monoplaces, autrement qu'en négatif, c'est-à-dire quand il y a une crevaison ou autre, ben, il faut ouvrir la stratégie. Et là, je leur rends hommage. Tu sais, je leur ai assez tapé sur la tête également, parce qu'ils ont choisi les pneumatiques les plus tendres. C'est audacieux. Alors évidemment, on sait que dans le chaudron, là aussi, le tourniquet hongrois, dans la cuvette, eh ben, effectivement, il va y avoir une dégradation des pneumatiques. Aux pilotes de gérer, aux équipes de gérer, avec une exploitation des pneumatiques qui soit correcte et surtout une stratégie correcte. Alors on a tout vu, et c'est ça qui est intéressant, on a tout vu, on a vu des gens qui ont tenté de s'arrêter une fois ou qui se sont arrêtés qu'une fois, on a vu Verstappen qui s'est arrêté plein de fois, on a vu Leclerc qui s'est arrêté plein de fois, bon, on a vu des softs, on a vu des durs, on a vu des médiums, bref, on a à peu près tout vu. Bah, moi je trouve ça plutôt sympa. Alors évidemment, ça se fait, pardon, j'ai un petit chat, j'ai un petit jaguar dans la gorge.
Kimi Antonelli, crash Kimi.
J'ai un petit Kimi dans la gorge, voilà. Donc ça se fait aussi dans la douleur, parce que soit on détermine une stratégie impeccable, on l'applique, on déroule et ça produit un résultat. Lire Kimi, justement, tiens, comme par hasard, arrêté au 22e, au 34e, parti en médium, après deux durs et paf, ça déroule gentiment. Et puis après, des stratégies un petit peu erratiques en fonction déjà des positions, du comportement des monoplaces, des plaintes des pilotes, de ceci, de cela, et même contre nature, avec Verstappen obligé de rouler avec des softs alors qu'il s'est arrêté au 42e tour. Ça fait quand même presque 30 tours avec un train de soft, il faut le faire. Hein. Mais bon, je pense que chez Red Bull, on se dit, bon, il est capable de tout faire. Lui, il est capable de nous faire le Grand Prix en soft. Alors, on va tenter des trucs insensés. De toute façon, il va bien y arriver. Donc, voilà. Oui, alors, répondre à ta question, bah, Pirelli prend des risques. C'est plutôt sympa, avec des pneumatiques plutôt plus tendre, c'est en gros un cran plus tendre que les choix de l'an dernier, hein, c'est donc on prend des risques, en plus avec des pneumatiques qui ne sont pas les mêmes, puisque vous savez bien qu'ils sont développés chaque année spécifiquement, donc surtout avec les changements drastiques de réglementation, les pneumatiques 2026 n'ont rien à voir avec les pneumatiques 2025, bah écoute, ça nous fait encore un facteur d'ajustement, de réglage, d'incertitude, et moi je trouve ça plutôt globalement sympa.
Un mot des Français quand même, messieurs. Pierre Gasly finit 12e. Ça ne cesse de reculer et de s'effondrer pour Alpine. On a l'impression quand même qu'ils vont se faire bouffer tout cru dans le millefield, Thomas.
Ben, y a qu'à voir la performance des deux pilotes Racing Bulls qui, une nouvelle fois, rentrent dans les points.
Et Hülkenberg qui a allé chercher ses premiers points également.
Qui a débloqué son compteur. Donc, ça rapproche aussi un petit peu Audi d'Alpine, du millefield. Mais oui, quand Racing Bull performe, eh ben, malheureusement, Alpine ne cesse de stagner. Et on sent Pierre Gasly, là, qui commence un petit peu à y ronger, je pense, son frein jusqu'à maintenant. Là, maintenant, il n'hésite pas à dire
que
cette situation le pèse un petit peu et qu'il va falloir, là aussi, comme dans d'autres écuries, se remobiliser pour ne pas perdre la bataille du midfield.
Jean-Luc, je sais que tu avais envie de parler, évidemment, des pilotes Racing Bulls. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un point de vue global que tu peux avoir sur ce midfield avec à la fois Gasly qui en a marre et puis ses performances qu'on peut retrouver du côté de Lawson Lindblad et aussi ce retour, entre guillemets, en forme d'Audi et Hülkenberg et Bortoleto qui enchaînent des points tous les week-ends.
Bien sûr. Bah écoute, je vais être bref puisque là c'est une question vaste. Alors on commence par ce qui marche, hein, les Racing Bulls. Bah écoute, c'est génial. Moi j'ai beaucoup de sympathie pour cette équipe, cette deuxième équipe, un petit peu écartelée elle aussi, on le sait de fait, hein, entre l'Italie et la Grande-Bretagne, mais qui trouve son chemin. Alan Perman est un très bon leader. Les deux pilotes sont excellents. J'ai parlé brièvement de Lawson tout à l'heure, mais j'y reviens. Liam Lawson, il a beaucoup de talent. Ce néo-zélandais, vraiment il est là, il a eu un coup dur, hein, l'an dernier, ça aurait pu lui coûter sa carrière, hein, vraiment. Il était déprimé, puis après il a retrouvé du poil de la bête tout seul au cours de la saison. Cette année il est excellent, d'autant qu'il maîtrise, il doit maîtriser une perle, une pépite, je vous sors le même mot à chaque fois, il s'appelle Arvid Lindblad, c'est un peu difficile à prononcer, mais à 18 ans, bon bientôt 19, ce gamin qui est un rookie, il fait preuve, là aussi, d'une maturité, d'une vista. Alors, OK, il a une bonne voiture. On retrouve un peu le Hadjar de l'an dernier, hein, vous vous souvenez, c'est Isaac, ça, ouais. qui exploitait merveilleusement bien cette voiture. Elle a une qualité formidable. C'est que, je vais oser dire, elle est facile à conduire, même pour les rookies. Ça veut dire qu'on s'y sent à l'aise. L'écurie, elle est sympa, on s'y sent à l'aise. C'est complètement logique qu'il soit en train de s'emparer de la cinquième place. Il le mérite. Alors, ça va m'emmener, évidemment, chez Alpine. L'écurie, écoutez-moi bien, britannique. L'écurie britannique, Alpine, donc, dont on nous avait vanté les mérites avec le meilleur moteur de la Terre, et OK, ils ont été pas mal, hein, il faut pas les enterrer complètement, ils ont été pas mal, pour être précis, jusqu'à l'Espagne. Et puis là, ça va très très mal depuis 5-6 Grands Prix.
La pause arrive au bon moment, quoi.
Comme vous le disiez, Gasly commence à s'énerver. Colapinto, qui est plus à blâmer, hein. Maintenant, il est globalement du niveau de Pierre, ce qui est quand même un sacré compliment, vraiment. Donc, ils se poussent les deux pilotes, mais ça ne suffit pas. Il va falloir qu'il y ait des nouveautés qui arrivent, et puis rapidement, parce que sinon, le Flavio qui nous avait vendu, là aussi, qu'ils allaient être champions du monde dans combien ? On ne sait plus, hein. C'est un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans peut-être. En tout cas, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, c'est un peu désolant. Et puis, tu parlais d'Audi. Audi qui arrive un peu sous la lumière aussi, depuis 3 Grands Prix, hein, ils marquent des points régulièrement et puis ils sont en train de remonter. Ils sont 12 points, c'est encore loin de Haas pour le moment.
Alors voilà, ils sont en train tranquillement. Des constructeurs.
Absolument. Voilà. Williams qui est nulle part également. Et puis Haas qui est nulle part aussi, il faut le dire. Alors ça nous fait mal au cœur. Ça nous fait mal au cœur évidemment pour Perman. Aussi. Mais surtout pour Esteban. Parce que ça, c'est le mauvais moment. Et là aussi, je ne veux pas rajouter de l'huile sur le feu, mais le pauvre Esteban, là, lui qui est toujours fort en course, en plus, il n'y arrive pas. Tellement la voiture est mauvaise. Donc, ça ne sent pas bon.
Rapidement, Thomas, Aston Martin a tout simplement bouclé son meilleur week-end depuis le début de la saison. Ça y est, l'AMR 26B fait ses preuves déjà.
Enfin, parce que depuis le début de l'année, je pense que Alonso et Stroll étaient remontés comme des coucous, parce que faire les résultats qu'ils ont fait depuis le début de l'année, hormis le point, on va dire, cadeau à Monaco avec les pénalités.
Oui. Le bonus.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Je pense que ça commençait un peu à leur porter sur le moral. D'ailleurs, Stroll l'a dit, hein, on n'a pas l'habitude de voir Stroll montrer bien ses émotions, plutôt quelqu'un de très discret et un peu, je dirais, aimable comme une porte de prison. Mais là, il a dit c'est la meilleure amélioration de l'histoire de l'écurie. Donc ça résume parfaitement. Première Q2 de Fernando Alonso. On n'a pas débouché les bouteilles de champagne, mais je pense
presque. On les a achetées et on les débouchera plus tard, je pense.
Mais voilà, ça montre que enfin ces améliorations qu'on promettait depuis plusieurs week-ends fonctionnent. Je pense que le moral est au beau fixe. Ça montre que ça marche enfin. Adrien Newey doit être un petit peu rassuré. Parce que depuis le début aussi de la saison, tous les problèmes tombent sur lui. Quand on voit le projet, hein, tous les budgets colossaux qui ont été alloués à ce projet pour faire d'Aston Martin une équipe capable de jouer de gagner des courses, voire jouer le titre. Bon, on va pas quand même s'enflammer à 200%. C'est positif. Il y a d'autres améliorations qui vont arriver. Mais pour la bataille du fond de tableau, quand on voit Cadillac qui n'a toujours pas réglé ses foutus problèmes de frein, Bottas qui a eu ses problèmes de frein avec la voiture qui a pris feu à l'entrée des stands. Bon, comparé à leurs homologues américains, Aston Martin va dans le bon sens et c'est positif. Après, il ne faut pas s'enflammer, mais j'espère au moins que pour les prochaines courses après la pause estivale, il y aura d'autres améliorations et d'autres points positifs à tirer de cette écurie.
Jean-Luc, rapidement, est-ce que tu veux rajouter un mot ?
Oui, très rapidement, pour rebondir, si ça peut nous conserver Fernando sur la grille, ce sera formidable. Écoute, parce que moi, je redoute l'annonce. Il avait dit que ce serait cet été. À chaque fois, il dit, écoutez, je vous le dirai, hein, voilà. Donc il va méditer, il va réfléchir, mais c'est vrai que là les voyants, vous me voyez venir, c'était trop facile, sont au vert, voilà, je l'ai fait, donc comme la couleur évidemment de l'Aston, donc ça fait vraiment plaisir. Je pense que le meilleur est encore à venir, d'une part parce que vous savez bien que le moteur Honda, il va rouler mercredi là, vous le savez, pour une séance de film, voilà, nouveau moteur, et moi je fais totale confiance également aux ingénieurs japonais pour nous sortir quelque chose du niveau. On le verra rouler évidemment à Zandvoort, ce qui était prévu. Donc, le package qui va évoluer, il y aura encore deux autres améliorations d'importance. Et là aussi, Adrien Newey ne parle jamais pour ne rien dire. Donc, c'est clair qu'il y aura encore des pas en avant. Je pense qu'avec un peu de chance, on va revoir Aston là aussi, peut-être en bagarre pour dans le ventre dur, hein, en bagarre avec Racing Bull, par exemple. Ce serait génial, autour de la 10e place. Pourquoi pas une Q1 avant la fin de la saison. Et puis, des points régulièrement. Et puis allez, on garde Fernand et c'est parti pour une belle année 2027. Voilà.
Très rapidement, on parlait tout à l'heure d'un chef de file pour Red Bull avec Max Verstappen. Aston Martin, c'est la même chose. Si Fernando Alonso reste, il y aura un chef de file, il y aura un pilote qui va apporter la grinta, entre guillemets, pour que l'écurie aille de la meilleure des façons, enfin qu'elle aille du mieux possible. Donc oui, au vu des performances, du bon qu'il y a eu, ça serait malheureusement dommage que Fernando Alonso parte, et je pense qu'il en a conscience. Je pense que les améliorations qui ont été apportées à Hongrie vont peser dans la balance pour savoir s'il reste ou pas l'année prochaine.
On va suivre ça, évidemment, juste avant de boucler cet épisode, un petit mot quand même, bilan peut-être de cette première partie de saison, avec une stat qui illustre, je trouve, cette première partie de saison. Après ce Grand Prix en Hongrie, il y avait trois constructeurs différents sur le podium. C'était le 11e podium différent en 11 Grands Prix. Et c'était aussi le 5e vainqueur différent sur les 5 derniers Grands Prix après l'hégémonie de Kimi Antonelli. Est-ce que vous trouvez aussi que ça représente cette première partie extrêmement indécise de cette nouvelle version de la Formule 1? Et aussi, est-ce que vous trouvez ça génial ou inquiétant, Thomas?
Ah ben c'est génial. Moi, ça me rappelle une saison. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière, mais ça me rappelle la saison 2012. Oui, on avait beaucoup de pilotes différents, qui ne sont plus d'ailleurs pour certains sur la grille. Mais nous, on ne demande que ça, de voir des pilotes différents, des constructeurs différents se battre pour cette victoire. En tant que, moi, je me mets à la place d'un spectateur, voir 5 vainqueurs différents sur les 5 derniers Grands Prix, je me régale. Après, ça montre aussi que voilà, Mercedes, si on se base d'un point de vue un peu plus d'expertise, une écurie qui dominait tout depuis le début de la saison, tant que le dernier Grand Prix n'a pas été effectué, elle n'est pas à l'abri de quelques mésaventures. Et là aussi, je reprendrai un petit exemple historique. Reprenez Brown GP en 2009, qui survolait pendant toute la première partie de la saison, puis il y a eu des changements de réglementation, et puis au final, elle était un petit peu reléguée au second plan, et d'autres écuries comme McLaren ou Red Bull étaient revenues à son niveau, presque à son niveau. Donc moi, je je ne souhaite que ça, entre guillemets, qu'on ait de la bataille, en piste, qu'on laisse un petit peu de côté toutes ces questions de réglementation, de gestion d'énergie, tout ça, etc., et qu'on laisse les pilotes se battre et qu'on ait des courses exceptionnelles et des vainqueurs différents et un beau championnat à la clé.
Jean-Luc, ça montre aussi, d'un côté un peu plus négatif, que toutes les écuries et tous les pilotes sont en difficulté pour appréhender cette réglementation, et donc ça offre une F1 qui est de plus en plus incertaine. Est-ce que tu trouves ça génial ou inquiétant, ces stats?
Alors écoute, je suis globalement évidemment de l'avis de Thomas et du tien. Puis on a envie de s'enthousiasmer, c'est ça l'histoire. On est content d'être heureux, voilà, je peux pas dire mieux. Donc oui, ce qui est positif, et c'est vrai que les chiffres, quand tu les assènes comme ça, quand tu les rappelles comme ça, ça démontre que la domination, on parlait tous de la domination de Mercedes, hein, ouais. Finalement elle est pas si écrasante que ça, en tout cas pas depuis que Ferrari et du coup McLaren se remettent dans le coup, donc ça c'est bien, et puis on espère, je l'ai déjà dit tout à l'heure, que Red Bull va bientôt s'y mettre avec Verstappen également, donc ce serait génial. Alors, donc, l'incertitude, c'est fabuleux, ça s'appelle le sport, hein. C'est pour ça qu'on l'aime. Quand il n'y a pas justement de cartes distribuées à l'avance et de cartes biseautées, quand tout le monde a les mêmes armes pour se battre, c'est génial. Maintenant, ce qui me gêne, et c'était le sens de ta question là, c'est l'incertitude qui provient, encore une fois, d'une complexité absolument invraisemblable des monoplaces, à tel point que personne n'y comprend rien. Et puis je vous dis, ce qui me gêne, c'est quand on est le samedi, on a la grille, on sait où on va, etc. Et on voit vraiment de bonne foi, hein, on voit McLaren et Norris nous dit non, on n'y croit pas trop parce qu'on pense que Ferrari est meilleur. Et puis le lendemain, Ferrari fait une course anonyme, on peut oser le dire, ça va pas du tout. On a Verstappen avec la Red Bull qui dit moi je suis nulle part, de toute façon il va rien se passer, il monte sur le podium. On voit Antonelli. Donc il y a une part d'incertitude qui est due, encore une fois, forcément à l'instabilité, le manque de fiabilité des monoplaces, ce départ encore une fois raté de Russell. Tant que ça ne se traduit pas par des drames, moi ça va, mais j'ai peur une nouvelle fois qu'un jour il y en ait un qui parte pas d'une des premières lignes de la grille et qui se fasse emplâtrer, il n'y a pas d'autre mot, par un pilote qui arrive à plus de 200 de l'arrière. On l'a vu malheureusement dans le passé, je le dis et je le répète et je croise les doigts à chaque fois que je dis ça. Donc je me réjouis de l'incertitude, je me réjouis de l'ouverture, je me réjouis du nombre de vainqueurs différents et je déplore ce manque de stabilité, de régularité et cette incompréhension surtout des meilleurs ingénieurs de la Terre, des monoplaces qu'ils ont eux-mêmes fabriquées.
On est bien d'accord, je savais que tu comprendrais le sens de ma question. Bon, Jean-Luc, c'était une question un peu grande gueule du sport, t'en es rendu compte, je pense. Juste compris. En 30 secondes pour boucler ce podcast, Jean-Luc, le Grand Prix de Bahreïn va se tenir en Malaisie, du 2 au 4 octobre prochain. Un petit mot avec toi, mon Jean-Luc, et on boucle le podcast derrière ça.
Alors j'ai un autre scoop, le Grand Prix d'Arabie Saoudite qui a été reporté va se dérouler au Kamchatka, puisqu'il y a eu un accord, c'est pas encore officiel, hein, mais un accord, le Kamchatka a accepté de créer un Grand Prix. Non, écoute, c'est ridicule, c'est grotesque, qu'on essaie de suppléer, ça je le comprends très bien,
et
ça
bien
risque,
sûr.
Voilà, de remplacer, oui, de remplacer les Grands Prix qui n'ont pas eu lieu malheureusement pour les raisons que l'on connaît, c'est normal. Maintenant, le calendrier va être infernal, vous le savez bien, plusieurs l'ont dit et je pense que là, alors on nous dit non, on pense, le Domenicali avec son sourire de circonstance nous dit toujours au moins Ben Sulayem il sourit pas lui déjà, c'est un avantage, mais quand on voit les trois, l'autre c'est le Premier ministre de Malaisie, se réjouir de ce bon tour de passe-passe en créant, alors on est content d'avoir un Grand Prix de plus, surtout en Malaisie, hein. Moi j'aime bien le tracé et tout, ça c'est génial, mais vous avez vu ce que vont devoir faire les pilotes, enfin surtout les mécanos et les ingénieurs, entre l'Azerbaïdjan le 26 septembre et Singapour le 11 octobre, mais c'est du délire total, c'est du délire absolu. Quant à la fin de saison, et si tu me permets de continuer avec ça, on sait très bien que, comme par hasard, hein, Imola et le Portugal et Portimao vont revenir remplacer aussi, c'est très vraisemblable, les deux Grands Prix de fin de saison. Ça, c'est plus logique et ça, c'est plus normal. Parce que, puisque malheureusement, probablement, le Qatar et Abu Dhabi ne pourront pas avoir lieu, qu'on essaie de les remplacer, ça, c'est très, très bien. Mais maintenant qu'on essaie d'aller prendre les dollars, je pense que là aussi... Est-ce qu'on peut avoir le montant du contrat, s'il vous plaît, entre Bahreïn et la Malaisie et la Formule 1? Non, on ne l'aura pas.
Très bien, on termine sur ce petit coup de gueule de Jean-Luc qui est, je pense, mérité. Merci Thomas, merci Jean-Luc, merci à vous de nous avoir écoutés. C'est la trêve. On se retrouve dans J'arrive plus à savoir. 3 semaines, 4 semaines.
3 week-ends.
3 week-ends. 4 semaines et 3 voilà. week-ends à Zandvoort.
Et puis attention, il y a quand même des paddocks enregistrés en boîte. Hein,
évidemment, on vous a prévu avec toute l'équipe des épisodes hors série spéciaux. Tous les lundis, vous aurez un paddock RMC. Nico Paolorsi, Jean-Luc Roy et Nicolas Oppé vous raconteront 3 des plus grands drames de l'histoire de la F1. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse évidemment écouter ça. C'est passionnant. Et puis, je vous souhaite une très bonne trêve estivale. Salut à tous.
Le paddock RMC.